France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte. France Musique.
Je m'appelle Suzanne Manoff, je suis née le 23 janvier 1959 à New York et je suis pianiste.
J'aimerais savoir, Suzanne Manoff, quand est-ce que vous avez commencé à jouer avec des partenaires en musique de chambre ? Déjà, est-ce qu'à la maison, vous jouiez avec votre père, avec d'autres instrumentistes ? Est-ce qu'il y a déjà eu ce rapport du collectif à la maison ?
À la maison, je ne peux pas dire qu'il y avait vraiment le collectif dans la musique, sauf avec ma sœur. Où on faisait des quatre mains quand on était jeune, mais elle, à un moment, elle a arrêté le piano. Et le piano, c'est pas ce qu'on a fait le mieux ensemble. Je pense que j'étais un peu bulldozer dans l'enthousiasme, là où elle avait une autre approche de l'instrument. Mais en fait, on faisait des soirées, des week-ends avec mes amis du conservatoire. Et dans le noyau vraiment proche, on était quasiment tous amoureux de la voix et du piano. Donc on jouait des quatre mains, des six mains, des huit mains à deux pianos quand on trouvait au conservatoire. Parfois, on avait même plus de pianos. Et puis on allait beaucoup voir les comédies musicales. On chantait tout. On chantait des œuvres de chorale, on chantait tous les solos, on chantait des Vivaldi. Et on jouait, on chantait, on déchiffrait les partitions d'orchestre. Et puis tout le monde se mettait en chœur. En fait, c'était ça, notre truc. Et on allait au concert ensemble, on allait beaucoup écouter P.D.Q. Bar, on écoutait la comédie musicale, on allait au théâtre. Et toujours, on chantait l'œuvre du moment qu'on faisait dans le subway. On était un peu comme dans ces films américains, ce Fame et des choses comme ça. Vraiment, on chantait dans la rue et on dansait. Et puis,
vous vous souvenez d'une soirée de comédie musicale ou d'un P.D.Q. Bach? Vous pouvez peut-être expliquer au public francophone ce que c'est que P.D.Q. Bach, qui est très des New-Yorkais.
P.D.Q. Bach, c'est un compositeur écrivain qui s'appelle Peter Schickele. Il a développé cette notion de P.D.Q. Bach, qui serait un membre de la famille Bach perdue, qui était né à Baden-Baden-Baden. Et donc, il commençait toujours les concerts par une arrivée à la Tarzan avec une corde, où il arrivait sur scène, il faisait un petit, montrait les diapos de la tombe de P.D.Q. Bach. Et tous les concerts, c'était des blagues musicales. Des blagues de pianistes qui jouaient en arrivant sur une table avec les mains en arrière comme des zombies. Des blagues de changer de main ou de partition, un peu comme à l'époque où s'y faisaient des gens comme Dudley Moore, qui est un humoriste aussi, qui a fait énormément de bien, nous a fait du bien, parce que c'était à la fois un magnifique pianiste, comme P.D.Q. Bach était un musicien incroyable, mais il faisait des blagues, on adorait ces blagues.
Oh boy! Man, it's lucky we got through the piece. Can you give me a hand, please? It was easier jumping out of this window than it is getting back in. Okay, thank you.
Donc vous faisiez ces soirées entre adolescents, à refaire, à reproduire un peu ces parodies, à reproduire cet humour à la maison, et c'est un rapport complètement décomplexé en fait à la musique,
classique. Oui, parce que là, on pouvait jouer les pièces, on rigolait autant, parfois avec un... Bon, je me rappelle, à un moment, avec mes copains, on jouait des trios de Mendelssohn. Moi, j'avais un trio avec un prof qui s'appelait Zeiger, qui était un magnifique chambriste, et Albert Tan était le premier violon. Très sérieux, avec eux, je jouais vraiment le trio, c'était de l'étude, et puis c'était la partie, comment dire... plus disciplinée de mon éducation musicale. Mais avec mes copains qui étaient Judy, Barbara, David, Richard, tous ces gens-là, on adorait rire. Donc, nos soirées, c'était danser dehors, aller dans un café, repartir en chantant, après se retrouver autour d'un piano, déchiffrer une comédie musicale et se laisser libre. Laisser l'imaginaire courir. Nous, on voyait que des possibles.
Hey, you!
Me?
Officer Krupke?
Yeah, you! Give me one good reason for not dragging you down the station house, you punk!
Dear kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just a bringing up key that gets us out of hand. Our mother's all our junkies, our father's all our drunks. Golly Moses, naturally we're punks.
Chief Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside is there is good.
There is good.
There is good. There is good. There is good.
Est-ce que vous alliez aussi à des concerts ou dans des institutions plus sérieuses, Carnegie Hall, Metropolitan Opera?
Oui, je me rappelle un concert avec Rudolph Serkin où on était justement avec tous les amis. On avait acheté des places au dernier rang du dernier balcon et il a joué une sonate de Schubert et personne n'était sûr qu'on ait entendu cette dernière note. On savait pas trop est-ce que elle existait ou est-ce qu'on l'avait imaginée. C'était extraordinaire parce que l'acoustique de Carnegie Hall est très particulière. On entendait tout et du coup c'était la salle mythique. J'ai entendu Horowitz. Je pense avoir entendu, mais j'ai entendu Ashkenazi plusieurs fois. J'ai entendu un peu plus tard Alfred Brendel, juste avant qu'il retravaille vraiment sa technique. C'est extraordinaire. Avec le Chicago Symphony, et ils ont joué la symphonie en mi mineur, et il a joué le deuxième concerto, et je trouvais à l'époque, c'était le début de ma fascination pour Brendel, parce que une technique extraordinaire, une puissance très 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 grande, et là où ce qui m'intéressait moi, ça commençait déjà à être ce qui est entre le silence et la première perception du son. Chez lui, je sentais cette espèce d'animal qui se libérait, mais que ce grand, grand son. Et en même temps, il y avait quelque chose dans sa sonorité qui était très heurté à l'époque. Et c'est après, des années après, j'ai appris en rencontrant quelqu'un ici en France qui avait beaucoup travaillé avec lui, qui était Marie-Françoise Buquet, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Qui est quelqu'un qui m'a énormément, énormément aidée, soutenue, comprise, nourrie. Elle a beaucoup donné. Et elle m'a raconté comment il s'est complètement remis en question quand il avait plus de 40 ans. Et c'est exactement cette époque-là. Et quand j'écoute les enregistrements qui sont sortis par la suite, qu'il a fait, là, je voyais cette aide qui m'impressionne tant maintenant sur... la puissance de l'intention, du rythme, des formes, des groupings, on appelle ça. Comment il groupe les choses, comment il fait des liens et comment il casse et comment le tout tourne comme c'est de l'horlogerie. Et très savant et extrêmement physique en même temps, très dans la chair. Et une des phrases que lui, il a dit, que je ne savais pas quand je l'ai entendu à Carnegie Hall, était « la beauté ne m'intéresse pas ». Et c'est une des phrases qui m'a le plus aidée dans ma vie, parce que je me suis rendu compte que à beaucoup de moments, j'étais tellement en quête de beauté, d'une beauté que je ne pouvais pas toucher, que je ne pourrais jamais avoir, cette espèce d'idéal. Et le fait de lâcher cette notion m'a donné beaucoup plus d'espace à l'interne, de oser le moche, de se dire que le moche, c'est pas mauvais.
Oui, c'est important pour la voix aussi, ce type de réflexion.
Ah oui, trop beau, c'est pénible. Ça peut être ennuyeux.
Vous alliez à l'opéra aussi?
Je n'allais pas tout le temps en ville. Il y avait plusieurs choses. C'est que j'ai grandi aussi dans une famille il y avait le côté maternel très créatif. Mais mon père, c'était un homme de chiffres et de formes et de discipline. Donc, ils nous ont bien tenus. J'avais pas une liberté pour aller comme je voulais en ville. Ma mère avait peur qu'on prenne le subway. C'était pas la porte à côté pour aller au concert, c'était tard. Ils nous ont emmenés un tout petit peu au concert, mais pas souvent parce que on n'avait pas les moyens. Je n'ai pas fait des vacances de ski comme on fait ici. J'ai pas fait beaucoup de sorties de classe. On avait vraiment les moyens de rassurer. J'avais l'essentiel et je voyais mes amis du conservatoire. Beaucoup vivaient à Manhattan et du coup bougeaient tout le temps. Mais j'étais un peu tenue à la maison. Et autant que ça me nourrissait, à un certain moment, il fallait aussi se détacher de ça. C'est probablement un de mes professeurs qui est devenu mon premier mari qui m'a permis de le faire.
Thank you.
Les grands entretiens de Suzanne Manoff, France Musique.
À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « je vais devenir pianiste » ? C'est venu à un moment de l'adolescence, j'imagine ?
Petite, je me suis dit, c'est comme les petites filles qui disent « je veux être danseuse », mais je voulais être pianiste. Ça, c'était là. Après, c'est plutôt à l'âge de 14-15 ans, quand je suis rentrée dans un high school, ce qu'on appelle high school, lycée. Mon père, il disait, tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu ramènes des notes vraiment topissimes à la maison. Donc, comme j'avais un grand respect pour lui et que j'étais plutôt quelqu'un qui voulait tout faire pour avoir des bonnes notes parce que ça me rassurait vis-à-vis de moi-même aussi, je pense que j'ai tout fait pour avoir ces bonnes notes en faisant un minimum. Et le reste du temps, je me rendais compte que ce que je voulais faire, c'est du piano, musique, 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 et vivre avec cette autre famille. Mmh. Mais moi, il fallait que j'aie ce diplôme. Et puis, c'est vrai que en Amérique, on parle beaucoup de papier, qu'il faut avoir le diplôme de ci, de ça. C'est encore différent que ce que nous vivons en France. Mais c'était un devoir. Et du coup, ce devoir, ben, il correspondait à qui j'étais à l'époque. Mais c'était certainement un frein, ce devoir de les bonnes notes, plutôt que de comprendre cette intelligence et comment on mange ce qu'on apprend. Que c'est ça qui compte. Et après, c'était, comme on dit en anglais, « biding my time » pour aller jusqu'à 18 ans pour avoir mon diplôme. Donc le piano, il me manquait du temps. Je commençais à sentir le temps se serrer en moi.
'Prenez votre envol pour l'université de l'Oregon, hein, sur la côte ouest.
J'ai fait Qu'est-ce d'abord un an à Manhattan School of Music, le collège, et là je me suis rendu compte que je voulais pas vraiment rester là, ni à New York, ni dans cette institution qui n'avait pas cette magie peut-être de l'enfance, que ce que j'ai connu enfant, il se trouve aussi c'est fait des personnes qui y sont, comme tout. Et c'était influencé aussi par mon premier mari, Tom, qui allait écrire un bouquin, un Music Appreciation Textbook, sur la côte ouest. Il enseignait là-bas et il m'a dit, si tu veux, viens voir ici. Peut-être c'est un endroit bon pour toi. Donc, je suis partie en Oregon. Et c'était une autre partie de ma vie, apprentissage aussi d'une façon d'analyser avec un homme extraordinaire qui s'appelait Robert Trotter, qui avait une analyse de la musique plutôt jungienne, qui était pour moi une découverte parce que sa façon d'analyser, je pouvais le comprendre parce que je pouvais le sentir dans mon corps. C'était pas que mon intellect qui se mettait en vibration. Il avait une façon d'analyser par courbe, aussi par couleur, par perception, par texture. Et il n'avait pas besoin de nommer tout. Le métaphore avait une place dans cette analyse-là. C'était beaucoup plus tactile.
Est-ce que c'est ça l'analyse schenkerienne, c'est ça,
ouais.
Américaine.
Voilà. Ouais. Et c'est pour moi c'était primordial. C'est pour moi, c'est ça lie complètement l'analyse, la sensation de ce qui est détendu, de ce qui se tend dans la musique, des couleurs, de l'harmonie, harmonie en couleur, harmonie en tactile, de courbes, de ce qu'on voit, choses comme ça, et de commencer à mélanger les perceptions, de voir avec les oreilles, donc du coup de ne plus du tout être embêté par le regard. Ou d'écouter avec les yeux. C'est autre chose que de se limiter à ce qu'on pense savoir. Ce professeur, j'avais eu un rendez-vous à peu près une fois par semaine en privé avec lui. Et j'avais 21 ans. C'était extraordinaire pour moi. L'université m'a offert une bourse totale. Et ils m'ont dit, vous faites le curriculum que vous voulez, parce que je leur ai dit, votre programme, c'est gentil, mais moi, j'ai besoin de ce prof-là, ça, ça et ça. Et je me suis fait un programme à la carte. Ce qui fait que, je peux le dire, aujourd'hui, je suis une pianiste qui a zéro diplôme, à part mon diplôme de high school. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'années de cours. J'aurais pu avoir un doctorat, je pense, avec tous les cours que j'ai pris, mais jamais dans le bon ordre pour des institutions. Et c'était ma façon de faire. Il fallait que je suive. C'était comme un parfum. J'étais comme un chien qui, comme on appelle ça, la chasse. Je sentais que d'un coup, il fallait aller là. J'ai rencontré beaucoup de profs de clavier différents. À un moment, c'était le clavecin avec Guy Beauvais. Après, c'était le forte piano. Après, c'était du clavicorde. Et toutes ces choses m'ont donné peut-être ce qui est devenu aussi une approche du son et du toucher et du piano et du corps qui me sont propres.
Vous arrivez aussi concrètement dans des espaces plus grands, non?
Là-bas?
Ouais.
Ah oui, quand j'ai survolé
le rapport à l'espace, à la géographie et autres.
Oui,
aussi.
Oui, mais oui. Et mais Eugene, Oregon, c'était une ville d'université avec beaucoup de maisons, pas beaucoup de grands immeubles. J'ai commencé à courir parce que c'est la ville de Nike. Donc voilà, je me suis acheté mes premières baskets Nike et je me suis mise à courir aussi, comme Forrest Gump. Et puis l'espace, si grand, des maisons architecturales, en bois, la présence du bois, beaucoup moins de métal, plus d'eau et le feu. C'est un pays de fabrication de papier et on allait dans les hot springs, dans les sources, s'asseoir dans les bains de minéraux, tout comme on pouvait aller à la mer voir le lever de soleil. Beaucoup de pluie et surtout l'espace. Oui, j'avais un premier boulot dans une église qui a, quelqu'un dans l'église a fini par acheter un piano pour que je puisse travailler et jouer à la messe. Ils ont acheté un magnifique Steinway de Hambourg. Et j'avais la clé de l'église tout en bois, dans un coin tranquille, et je pouvais travailler là comme je voulais. Me balader, c'était une autre notion. Prendre une journée pour se balader parmi les vaches, lire pendant 6 heures et jouer. Je me suis découverte, je pense, à cette époque-là.
Suzanne Manoff parlait un instant des grands espaces de la côte ouest américaine qui l'ont beaucoup inspirée, peut-être même pour interpréter cette nuit d'étoiles de Claude Debussy aux côtés de Sandrine Piau. Le troisième épisode de ces grands entretiens de Suzanne Manoff, ce sera demain à la même heure. À la réalisation, Gilles Blanchard, prise de son Raymond Albouy, mixage Olivier Dupré, attaché de production Flora Sternadel. Pour trouver les références discographiques de cet épisode, pour réécouter ou podcaster, rendez-vous sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.